Cependant, c'est bien une sagesse que nous énonçons parmi les gens accomplis. Une sagesse qui n'est pas de ce monde, ni des princes de ce monde, qui doivent être réduits à rien. Nous énonçons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, celle que Dieu a destinée d'avance, depuis toujours, à notre gloire. Aucun des princes de ce monde ne l'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur glorieux. Mais c'est, comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas venu au cœur de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc, parmi les humains, sait ce qui relève de l'humain, sinon l'Esprit de l'humain qui est en lui? De même, personne ne connaît ce qui relève de Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Or nous, ce n'est pas l'Esprit du monde que nous avons reçu, mais l'Esprit qui vient de Dieu, pour que nous sachions ce que Dieu nous a donné par grâce. Et nous en parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, en associant le spirituel au spirituel. Mais l'homme naturel n'accueille pas ce qui relève de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il ne peut pas connaître cela, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'être spirituel, lui, juge de tout, tandis que lui-même n'est jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous, nous avons la pensée du Christ.
Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous croyons que ce que nous pouvons connaître de toi, c'est toi-même qui nous l'as révélé par ton esprit. Cette parole que nous avons entendue a été inspirée par ton esprit et c'est ce même esprit dont nous avons besoin maintenant pour comprendre ce passage. Et nous te le prions au nom de Jésus. Amen. Pendant l'été, on va faire une parenthèse dans la série que l'on fait dans l'évangile de Jean. Il y aura différents passages qu'on va méditer le dimanche soir. Et là, on est dans un texte de la première lettre aux Corinthiens. Et vous avez probablement relevé un certain nombre de contrastes dans la lecture qu'on vient de faire. Le plan que j'aimerais retenir, ça sera tout simplement le suivant. Une sagesse jusque-là cachée dans les versets 6 à 9. Et une sagesse par l'Esprit révélée dans les versets 10 à 16. On va naviguer entre le PowerPoint et le texte, et ce serait pas mal d'avoir le texte sous les yeux pour que vous puissiez vous-même voir, vérifier aussi ce que je dis, et suivre la méditation de ce passage. Comment comprendre ce passage? Si nous étions les Corinthiens qui avaient reçu cette lettre, est-ce qu'il faudrait repartir ce soir en se disant la chose suivante? Nous, les chrétiens, nous sommes des êtres spirituels, matures, accomplis. Nous sommes au bénéfice de la révélation de Dieu. Nous parlons un langage spirituel. Et en tant qu'êtres spirituels, nous pouvons juger de tout et nous ne sommes jugés par personne. À l'inverse, on trouve ceux qui ne sont pas chrétiens. En tant qu'homme charnel, ils n'acceptent pas ce qui vient de Dieu. C'est une folie pour eux. Est-ce qu'on devrait tout simplement prendre cela comme cela et repartir ce soir en se disant « Qu'est-ce que ça fait du bien d'être chrétien ? Qu'est-ce que ça fait du bien d'être dans le vrai ? Et puis si quelqu'un vous disait « mais quelle arrogance !» Vous vous diriez « mais le pauvre, ça confirme ce que je viens d'entendre, il n'a rien compris. » Est-ce qu'il faudrait se dire ça? Est-ce que c'est ce que ce passage veut nous dire? Je pense pas, et on va tenter de voir pourquoi ça ne peut pas être le cas. Maintenant, il faut poser la question de l'arrogance. La question de l'arrogance. Est-ce que c'est arrogant pour quelqu'un de penser qu'il a raison et que l'autre a tort? Est-ce que c'est arrogant de penser cela? Est-ce qu'on devrait, dans un souci d'humilité, dire que tout le monde a raison? Tout le monde a raison. Toutes les religions se valent, et même pour l'athéisme, tout se vaut. Écoutez ce que a écrit le philosophe athée André Comte-Sponville il y a quelques années, à juste titre à mon avis. Pourquoi toutes les religions seraient-elles également intelligentes, intéressantes, profondes? On s'est étonné que le pape Benoît XVI, dans son discours de Ratisbonne, mette le christianisme plus haut que l'islam. La belle affaire. Serait-il pape autrement? Et quel musulman qui ne mette l'islam plus haut que le christianisme? Et un peu plus loin, il conclut, méfions-nous du politiquement correct, du consensus mou, de la tyrannie des bons sentiments. Tous les hommes sont égaux, en droit et en dignité, mais toutes les idées ne se valent pas. Le droit d'être contre fait partie des droits de l'homme. On va revenir par la suite sur cette question d'arrogance, parce qu'à mon avis, elle est importante pour bien comprendre ce passage. Mais pour l'instant, reconnaissons qu'il est tout à fait légitime d'être contre la perspective d'une autre personne, et même profondément contre, de penser que l'autre a tort, et même profondément tort, dans ce qu'il perçoit. Et d'ailleurs, quand on y réfléchit, même les personnes qui pensent que toutes les religions se valent, pensent qu'elles ont raison, et que les personnes qui n'ont pas cet avis ont tort. Tout le monde le fait finalement dans la pratique. Mais on en revient à la question posée à ce texte. Avec quel état d'esprit est-ce que vous devriez partir ce soir? Avec quel état d'esprit est-ce que vous devriez partir ce soir? Est-ce que les Corinthiens devaient sortir avec ce sentiment de supériorité? Si oui, il y a des problèmes de taille avec une telle lecture. Pour commencer, écoutez ce que l'apôtre Paul leur écrit juste après notre texte, donc dans le chapitre 3. « Quant à moi, mes frères, ce n'est pas comme à des êtres spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des êtres charnels, comme à des tout-petits dans le Christ. Je vous ai donné du lait, non pas de la nourriture solide, car vous n'auriez pas pu la supporter. » D'ailleurs, maintenant même, vous ne le pourriez pas, parce que vous êtes encore charnel. En effet, pour autant qu'il y a parmi vous des passions jalouses et des disputes, n'êtes-vous pas charnel? Ne vous comportez-vous pas d'une manière toute humaine? On le découvre à plusieurs endroits dans la lettre. Une des choses qui revient régulièrement, c'est que les Corinthiens étaient précisément enflés d'orgueil, que cette prétention, cette arrogance, elle est bel et bien là. Et lorsque l'apôtre Paul parle en termes de spirituel ou de sage, c'est dans le contexte où justement il veut leur dire qu'ils doivent être humbles et remplis d'amour, édifier les autres, plutôt que vouloir se mettre en avant. Parce que précisément le problème, un des gros problèmes, c'est l'arrogance, la prétention. Le sentiment de supériorité. Alors avec une lecture de tout à l'heure, ça ne collerait pas avec le reste de la lettre. Comment comprendre ce qu'on a lu? Comment comprendre les nombreux contrastes que l'apôtre Paul fait? On commence avec une sagesse jusque-là cachée dans les versets 6 à 9. Jusqu'ici, on pourrait dire que l'apôtre Paul, il a pas mal tapé sur la sagesse. Je vous invite à le voir, ou en tout cas ce que la sagesse de l'époque représentait. Notez par exemple qu'il ne recourt pas à la sagesse du langage. Dans le chapitre 1, il cite le prophète Ésaïe qui annonce que Dieu va faire disparaître la sagesse des sages. Il affirme que Dieu a démontré la folie de la sagesse du moment, que la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et au début du chapitre, il affirme qui n'est pas venu avec une supériorité de langage ou de sagesse pour témoigner au sujet de Dieu. Sa prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, afin que leur foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Voilà donc qu'il a cassé à plusieurs reprises cette sagesse toute humaine, la sagesse des philosophes. Mais il enchaîne en disant « Cependant, c'est bien une sagesse que nous énonçons parmi les gens accomplis. » Mais une sagesse différente, regardez le verset 7, « Nous énonçons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, celle que Dieu a destinée d'avance depuis toujours à notre gloire. » Et qu'est-ce qui témoigne qu'elle n'a pas été reconnue, qu'elle est restée cachée, cette sagesse? Après tout, quand on pense à certaines civilisations comme les Égyptiens, les Babyloniens, on pense aux Grecs, est-ce qu'ils ont manqué de sagesse? Ce n'est pas à remettre en question la richesse de leur héritage et ce qu'ils ont apporté dans l'histoire. Mais il y a bel et bien quelque chose de grandiose qui leur a été caché, mais qui maintenant a été révélé, la révélation en Jésus. Et même les grands, à l'époque de Jésus, au verset 8, n'ont rien vu venir. Aucun des princes, ou un autre terme, ce serait les chefs de ce monde, ne l'a connu. Car s'ils l'avaient connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur glorieux. Pilate, le gouverneur romain, Hérode, le tétrarque, Caïphe, le grand prêtre, le Sanhédrin, personne n'a reconnu Jésus pour celui qu'il était vraiment. Personne n'a reconnu en lui le Seigneur glorieux. En tant que chef placé à la tête du peuple, on aurait imaginé que c'était les plus rusés à la tête. Mais ils n'ont rien vu. Ils n'ont rien vu venir. Eux, ils ont agi selon la sagesse humaine. Ils ont vu en Jésus quoi? Une menace. Un messie dérangeant. Et pour eux, la chose la plus sage à faire, c'est de se débarrasser de lui. Parce qu'il dérange justement. De le faire crucifier. Leur véritable sagesse, ou la véritable sagesse plutôt, elle est donc cachée à leurs yeux. Et ça n'enlève pas leur responsabilité au verset 6. Et ensuite, l'apôtre Paul appuie le fait que ça leur a été caché par une citation du prophète Ésaïe, ce que l'œil, verset 9, Ésaïe 40, verset 13, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu et ce qui n'est pas venu au cœur de l'homme, ce que Dieu a préparé pour eux, pour ceux qu'il aime. Et la grande ironie de ce moment-là, c'est que tout en ne voyant pas ce qu'ils faisaient, ne réalisant pas ce qu'ils étaient en train de faire, c'est le plan prévu longtemps d'avance par Dieu qui s'accomplit. Paradoxalement, alors qu'ils pensent pouvoir se débarrasser de Jésus, c'est le projet de Dieu qui s'accomplit. La question que l'apôtre Paul soulève par ces contrastes, c'est est-ce que nous sommes en mesure, nous, de reconnaître la sagesse de Dieu? Est-ce que nous sommes en mesure de la voir? Parce qu'il y a une différence entre la sagesse des hommes qui désirent s'élever eux-mêmes et la sagesse de Dieu qui s'est abaissée en la personne de Jésus qui est mort à la croix. Ces derniers mois, on entend déjà parler de la campagne présidentielle. Et on est parfois surpris d'entendre le langage utilisé lorsqu'il est question de ces élections en 2017. À son ancien ministre de l'Agriculture, si l'Express a raison, Nicolas Sarkozy aurait affirmé « La question, ce n'est pas de savoir si je vais revenir, mais si j'ai le choix, moralement, vis-à-vis de la France, de ne pas revenir. Je ne peux pas me défausser moralement vis-à-vis des Français. » Dans l'émission des Paroles et des Actes, François Fillon annonçait sa candidature en précisant « candidat par devoir, mais pas par envie ». Et dans un premier temps, lorsque j'ai entendu ces déclarations, je me demandais « mais qui entend cela et pourrait se dire que c'est là la véritable motivation ?» Remarquez le langage de sacrifice de soi, de morale, de don de sa personne. Il nous invite justement à les voir non pas comme des personnes qui désirent s'élever au-dessus des autres, mais qui s'abaissent pour le bien de tout le monde. Et ça, c'est important pour nous de le réaliser. On peut facilement utiliser le langage du sacrifice, du don de soi, de l'abaissement, et avoir dans notre cœur les motivations qui consiste précisément à s'élever. Le langage de l'humilité, mais pour être élevé, la sagesse humaine. Quand je parle constamment de moi, et que je parle même de mes erreurs, est-ce que c'est véritablement pour vivre une repentance plus profonde, plus sincère? Ou est-ce que c'est pour me présenter comme quelqu'un d'humble, justement, qui est prêt à reconnaître ses erreurs, pour être vu comme tel? Quand dans une conversation, je m'intéresse à quelqu'un d'autre, je l'écoute, posant des questions. Est-ce que c'est bien avec un désir d'aimer l'autre personne et de l'encourager? Ou est-ce que c'est pour être vu comme quelqu'un qui est à l'écoute, quelqu'un de désintéressé, qui se soucie des autres? Il faut reconnaître que nous sommes tordus dans notre manière d'agir. On peut avoir le langage de l'abaissement, du sacrifice, du don de soi, et dans le cœur avoir les motivations qui sont toutes humaines, un désir de s'élever. Et cette sagesse de Dieu, elle peut facilement nous rester cachée. On passe maintenant à une sagesse par l'Esprit révélé. Comment définir la vraie sagesse, la sagesse de Dieu? Comment est-ce qu'elle nous vient? Comment la reconnaître? Est-ce que c'est dû à une meilleure perspective par rapport aux autres générations? Est-ce que nous sommes plus perspicaces, une intelligence qui nous serait propre? Il ne faut pas aller loin pour comprendre. Au verset 10, si vous lisez, « Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » C'est bien par l'Esprit que nous allons pouvoir comprendre qui est Dieu, comprendre sa sagesse, sa pensée. Et dans le verset suivant, l'apôtre Paul illustre cela par une image toute simple. On plaisante parfois sur le fait que j'ai lu dans tes pensées, je savais que tu allais dire ça. Parce que justement, normalement, on ne le sait pas. Personne ne sait vraiment ce qui se passe dans ma tête. Il y a même des moments où moi, je ne sais pas ce qui se passe dans ma tête. Le grand blanc. Mais bon, ça c'est autre chose, ça. C'est un autre problème. Mais pourquoi les mots de passe? Pourquoi les codes secrets? C'est précisément justement pour que les autres ne le connaissent pas. Et c'est quand on les divulgue, quand on les écrit, que ça devient dangereux. Il faut donc le révéler pour que cela soit connu. Et l'Esprit de Dieu, c'est ce qu'il fait. Il révèle la pensée de Dieu, ses pensées les plus profondes, que nous ne pourrions pas connaître à moins qu'il les révèle. Et dans le verset 12, Paul oppose l'esprit du monde à l'esprit de Dieu. Et quand on a la situation des Corinthiens en tête, quel genre de contraste est-ce qu'on pourrait avoir? Pour l'esprit du monde, on pourrait imaginer la rivalité où tout le monde joue des coudes pour être sous les projecteurs, pour être vu. Et ça peut prendre différentes formes. Pensez par exemple à un show de télé-réalité. Vous êtes sélectionné avec un certain nombre de personnes à être sur ce plateau de télé-réalité et vous voulez rester jusqu'au bout de l'émission. Vous allez avoir différentes manières d'agir. Peut-être parfois, ça sera la douceur, l'amabilité. Peut-être parfois, ça sera la colère, la critique de l'autre. Mais au fond, c'est pour rester jusqu'au bout. Mais à l'opposé, l'Esprit de Dieu nous aide à percevoir tout ce que nous avons reçu est grâce, cadeau. Cet Esprit nous aide à connaître ce que Dieu nous a donné par grâce, pas une loi du mérite où on s'élève au-dessus des autres, mais où il y a une reconnaissance de ce que Dieu nous a donné par grâce. Il n'y a pas si longtemps avec une personne qui vient ici le dimanche matin. Et elle avait dit une petite phrase toute simple, « Je ne suis pas digne de tous les cadeaux que Dieu me fait. » Je ne suis pas digne de tous les cadeaux que Dieu me fait. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut dire ça? On peut le dire dans la mesure où on comprend justement que tout ce que nous avons, Dieu en est l'auteur. Il est l'auteur de ses grâces, pas des choses qu'on a méritées par nos efforts. Et ce qui nous permet de réaliser cela, c'est précisément l'Esprit. Et c'est l'occasion de nous demander si cette reconnaissance, elle est régulièrement dans nos paroles, dans nos prières. Est-ce que cette reconnaissance, elle vient dans ces temps de parole? Ou est-ce qu'on considère les choses comme un dû et les requêtes comme un devoir de la part de Dieu? Au verset 13, l'apôtre Paul revient ensuite sur sa prédication et il a déjà dit sa prédication, elle ne reposait pas sur la sagesse humaine, capacité de persuasion. Il n'a pas cherché à intimider ou à jouer avec l'émotion des gens, la fierté des auditeurs, les manipulant. Ils ne veulent pas, les apôtres, et ils ne peuvent pas le faire, au verset 8. Il doit expliquer les choses de l'esprit par les paroles qui lui viennent de l'esprit, pas de lui-même. Mais maintenant, la question, elle se pose de nouveau. Où en sont les Corinthiens? Où est-ce qu'ils en sont? Où est-ce que nous en sommes? Après tout, l'apôtre Paul va dire au chapitre 3, verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Dans un sens, ils auraient tout ce qu'il faut pour saisir les choses de l'Esprit puisqu'ils sont habités par l'Esprit de Dieu. Mais il peut leur dire juste avant ça, au chapitre 3, verset 1, pardon, « Ce n'est pas à des êtres spirituels que j'ai pu vous parler. » Le paradoxe, c'est que ce sont des êtres spirituels et en même temps, ils ne sont pas spirituels. Ils poursuivent la sagesse, mais ils passent à côté de la sagesse. Ils pensent faire partie des initiés, de l'élite, de ceux qui savent, mais de toute évidence, ils manquent le mystère révélé en Christ, le fait que c'est précisément par la croix que Dieu triomphe. Et avec ces paradoxes, on trouve la raison, à mon avis, pour laquelle l'apôtre Paul appuie les contrastes. Il les pousse à se positionner au verset 14, « Mais l'homme naturel n'accueille pas ce que révèle l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il ne peut pas connaître cela, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » L'homme naturel, on pourrait le définir comme celui qui est livré à lui-même, l'homme qui n'a pas reçu cette régénération. Trois choses sont dites à son sujet. Il n'accepte pas ce qui vient de l'esprit, d'où sa responsabilité. C'est une folie pour eux, perspective renversée. Ils ne comprennent pas la sagesse de Dieu, incompréhension. Mais à l'opposé, regardez les versets 15 et 16, qu'est-ce qu'il y a? L'être spirituel, lui, juge de tout, tandis que lui-même n'est jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous, nous avons la pensée du Christ. Par ces contrastes, l'apôtre Paul donc les pousse à se positionner. Quelle attitude est-ce que vous allez avoir? Soyez dirigés par l'Esprit et pas par la sagesse humaine. Maintenant, peut-être en entendant « juge de tout » tandis que lui-même n'est jugé par personne, est-ce que c'est cette prétention justement qui revient, qui refait surface le sentiment d'être au-dessus des autres? Déjà, on peut dire ce que ça n'est pas. Si l'apôtre Paul est cohérent dans sa tête, et à mon avis il l'est, quand il écrit sa lettre, il sait ce qu'il va leur écrire après. Et au début du chapitre 4, les versets 1 à 3, on lit ceci. « Ainsi qu'on nous considère comme des serviteurs du Christ et des intendants des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande d'un intendant, c'est qu'il soit digne de confiance. Quant à moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par une juridiction humaine. Je ne me juge pas non plus moi-même. » Ce n'est pas jugé dans ce sens-là. Il se définit comme un intendant, comme un serviteur de Jésus-Christ qui doit révéler le mystère qui lui a été révélé. Et il ne juge pas les autres dans ce sens-là, se plaçant en juge. Et il ne peut même pas se juger lui-même. Alors qu'est-ce que ça veut dire « juge de tout » tandis que lui-même est jugé par personne? Une des choses que j'ai entendues il n'y a pas longtemps aussi, et qu'on entend assez régulièrement, je le suggère, c'est que chacun peut comprendre la Bible comme il le veut. Quelqu'un pourrait la lire dans ce sens-là et comprendre ceci dans le passage. Quelqu'un d'autre pourrait le lire dans un autre, avec une autre perspective et sa manière de voir. Si ce qui est vrai pour l'un ne sera pas forcément vrai pour l'autre. Et on ne devrait surtout pas juger qui a raison des deux. Mais dans la mesure où précisément on croit, que l'Esprit a révélé cette parole, l'a fait connaître, on devrait justement devoir se positionner. On ne peut pas rester dans le no man's land en disant peut-être que lui a raison, peut-être que lui a raison. Il va falloir se positionner et dans ce sens-là, juger de tout ce qui nous a été révélé. Dans le contexte des Corinthiens, c'est apprendre à évaluer certaines convictions en étant fondé sur la pensée de Christ et au bénéfice de sa révélation de l'Esprit. Quand je réfléchis à la manière dont moi j'avais besoin de discernement, et ça c'est simplement en regardant en arrière, c'est-à-dire que je n'ai pas tout compris encore, il y a beaucoup de choses que je ne sais même pas que je dois encore apprendre, mais une des choses que j'ai appris, qui était une conviction importante, et c'était en lien avec cette lettre aux Corinthiens, un exposé sur cette lettre, c'est que l'évangile n'est pas un ABC qu'on découvre une fois et on passe ensuite à DEF, les choses plus compliquées. Autrement dit, on parle de Jésus, de la croix, de sa résurrection. Une fois qu'on a compris ça, il faut se réduire l'île de coude, il faut se décarcasser et avoir une vie de piété, une discipline. Et là, on passe à des choses plus compliquées. Mais c'est faux. C'est faux. L'évangile, et en particulier la croix de Jésus-Christ, ce n'est pas un ABC qu'on laisserait derrière pour passer à autre chose. C'est le cœur, c'est le centre, c'est le soleil dans notre système. Tout devra tourner autour de la croix. Sinon, pourquoi est-ce que l'apôtre Paul affirme dans cette lettre n'avoir rien su parmi eux que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié ? Avec tous les problèmes des Corinthiens, pourquoi est-ce qu'il revient constamment à l'Évangile ? Si ce n'est pas l'Évangile qui est le cœur et qui doit être présent dans toute la vie, tous les domaines de l'existence. La sagesse humaine, selon cette sagesse-là, je vais obéir pour être accepté par Dieu. Mais selon la sagesse de Dieu, je suis accepté à cause de ce qu'il a fait. Et là, je vais vouloir lui obéir par la suite. Ma motivation pour une sagesse humaine, ça sera la peur et l'insécurité. La motivation pour la sagesse de Dieu, c'est une joie reconnaissante. Dans la sagesse humaine, j'obéis pour obtenir quelque chose de la part de Dieu. Selon la sagesse de Dieu, je lui obéis pour l'obtenir lui, pour me réjouir en lui, trouver mon plaisir en lui et lui ressembler. Selon la sagesse humaine, quand les choses vont mal, je suis en colère. Colère contre Dieu, colère contre moi, peut-être d'autres aussi. Et comme les habits de Job, je pense que si j'ai fait les bonnes choses, je mérite une vie confortable. Mais selon la sagesse de Dieu, quand les choses vont mal, je lutte, c'est vrai. Mais je sais que Dieu le permet dans son amour. Et je vais expérimenter son amour de père dans ces situations-là. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te demandons pardon pour toutes les fois où notre désir au fond est de s'élever, de nous justifier devant toi et devant les autres. Nous te demandons pardon pour nos pensées tordues, cette sagesse qui nous est cachée. Et nous te remercions, Père, dans ta patience et dans ta grâce, d'avoir révélé cette sagesse d'en haut. Nous te remercions, Père, de l'avoir révélée en Jésus à la croix. Et nous te prions que nous puissions vivre de cette sagesse-là et trouver notre fierté en lui et dans cette croix. Permets-nous dans les jours qui viennent de vivre selon cette sagesse-là. Au nom de Jésus. Amen.